auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Capi Service de ce jour. Merci à vous tous qui venez de nous rejoindre sur la fréquence de la paix. Nous parlons à présent de la prolifération des stations-service dans les quartiers populaires. Quels sont les avantages et les risques et quelles sont les normes à respecter lorsqu'on érige une station-service? Eh bien, on en parle dans cette émission avec nos invités. Nous avons dans ces studios Monsieur Pepito Sakasaka, énergéticien. Bonjour.
Bonjour.
Et en ligne, nous avons l'ingénieur John Kabwidi-Bwidi, voilà, il est ingénieur BTP. Il interviendra dans les minutes qui suivent. Des questions et préoccupations, appelez déjà au 099-706-9941. Écrivez-nous à service@radiocapi.net. Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Tati Mapuku coordonne et réalise cette émission. Jody Daniel Kachama au micro. Excellente condition d'écoute de cette deuxième partie de l'émission au Capi Service.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Bien, on assiste depuis quelques années à la prolifération des stations-service à travers la ville de Kinshasa. Ce phénomène suscite de nombreuses questions et préoccupations, aussi bien parmi les citoyens que les experts. Le rond-point Super Lemba, par exemple, lui seul compte 3 stations-service. Dans de nombreux quartiers populaires, les pompes essence, comme on les dit, on les appelle, foisonnent à proximité des habitations, bien que cela présente des avantages économiques indéniables, mais n'est pas sans défi selon les experts. Un développement non contrôlé des stations-service peut avoir des risques environnementaux et de sécurité incendie. Alors, quelles sont les normes à respecter dans la construction des stations-service? Qu'est-ce qui explique ce foisonnement des stations dans les quartiers populaires à Kinshasa? Je ne sais pas si c'est le cas aussi dans d'autres villes. Alors, si vous avez des témoignages, n'hésitez pas d'appeler pour nous dire comment ça se passe là-bas chez vous. Monsieur Pepito Sakasaka, vous êtes énergéticien. On voit depuis quelques moments à Kinshasa qu'il y a des stations partout. Qu'est-ce qui explique cela?
Alors, il y a deux paramètres nécessaires qui expliqueraient cette prolifération des stations-service. Il y a d'abord la question de la demande. La demande en carburant de plus en plus est croissante.
Il y a beaucoup de véhicules,
Il y a quelques années, il n'y avait pas de motos, il y a beaucoup de véhicules. Je suppose d'ailleurs que les nombres de motos surpasseraient le nombre de véhicules
que nous avons aujourd'hui.
Alors cela impliquerait la demande est croissante. Mais il y a aussi cet aspect de la démographie galopante. On a besoin d'utiliser les carburants pour le moteur, pour le groupe électrogène, cette question de l'électricité qui cause problème. Et tout ça, il faudrait répondre à cette difficulté. Mais également, il y a aussi des questions liées à l'économie. C'est une très bonne affaire aujourd'hui. La personne qui érige une station-service et la personne qui érige un immeuble 5 étoiles à Kinshasa, c'est lui qui érige une station-service. Au bout de 3-4 mois, il aura les retours sur investissement et il fera des très bonnes affaires. Donc, ce sont les paramètres nécessaires à ne pas négliger.
Et il semble que ça crée aussi de l'emploi.
Voilà un autre aspect très important. Ça crée de l'emploi et autour d'une station-service, il y a, comme les urbanistes le disent mieux, il y a un potentiel d'urbanité. Là où on installe une station-service, ça donne vie à un milieu. Vous verrez, il y a des activités qui vont s'ajouter.
Qui se développent tout autour.
Pressing, voilà, donc la station-service est un édifice très complexe avec parfois de réalités que nous ignorons avec nos yeux. Et elle mérite d'être regardée avec beaucoup plus de soin et de sérieux.
Parce que généralement, à côté de la station, vous avez aussi une boutique à côté ou, c'est pas moi, un petit supermarché où les gens peuvent s'approvisionner.
En réalité, une station-service est un endroit où on vend le carburant. Mais on peut également retrouver quelques activités connexes. On peut retrouver de services pneumatiques, on peut retrouver une boutique, ainsi de suite. Mais comme je l'avais dit tantôt, la station a une certaine influence dans un milieu X ou Y. C'est une installation où on l'utilise très souvent pour donner vie à un coin. Et malheureusement, ici chez nous, on ne tient pas compte de tous les aspects et entrer à ces stations-service. Et du coup, on a l'impression comme si c'est devenu une bombe à retardement aujourd'hui.
Professeur, monsieur ingénieur John Kabwidi-Bwidi, bonjour.
Bonjour Glody, et je dis bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Bien, ingénieur John, dites-nous, qu'est-ce qui explique, y a-t-il d'autres raisons qui expliquent la prolifération des stations-service à travers la ville de Kinshasa?
Oui, bien entendu, notre frère, je pense qu'il est sur le plateau, et il a évoqué tous donc les points essentiels qui poussent à ce qu'il y ait des stations des services par-ci par-là au travers la République démocratique du Congo et précisément à Kinshasa. Situation d'économie, ça crée l'emploi, très bien. Mais il y a un problème qui se pose d'abord parfois qu'on va parler au cours de l'émission parce que il faut savoir que la station service est classée comme étant une opération dangereuse pour l'environnement. Et ça, c'est un point très capital. Malgré les avantages que ça offre pour donner de l'emploi, malgré de l'avantage que ça offre pour à cause de la demande très percutante au sein de notre capitale, mais il faut savoir que la station-service est une opération dangereuse contre l'environnement. Et par conséquent, pour sa réalisation, il faut qu'il y ait donc des permis de construire conforme à la loi sur les produits inflammables et explosifs. Parce que dans les stations d'essence, ou plutôt les services, ce que nous trouvons là-bas, ce sont des produits inflammables et explosifs. Et par conséquent, il doit y avoir les lois dans la matière qui réglementent les produits inflammables et explosifs. C'est ainsi que cela pousse à ce que nous puissions prendre beaucoup de sérieux pour arriver à construire une station-service. Mais je pense que tous ces éléments ne sont pas mis en considération parfois.
Alors, quelles sont les normes de l'environnement à respecter lorsqu'on veut ériger une station-service, Monsieur Pépito?
La matière est très complexe. J'aimerais peut-être ne pas se substituer à un urbaniste, mais je vais tenter quand même de donner quelques éléments. C'est une question qui revient au ministère d'Urbanisme et Habitat. C'est ce que les gens doivent savoir. S'il faudrait construire, c'est là qu'il faudrait avoir un permis de bâtir. Et à leur niveau, il y a quand même un cadre légal, un arrêté ministériel qui organise cette question. Mais cet arrêté-là ne parle pas suffisamment de toutes les réalités, toutes les normes vraiment en détail. Et ça laisse un vide juridique qui pousserait d'autres constructeurs à faire ce qu'ils veulent. Mais au-delà de cet arrêté, il y a également d'autres ministères qui doivent accompagner cette initiative, cette installation de stations-service telles que le ministère des Hydrocarbures, qui accorde le permis d'importation ou de commercialisation de produits, parce que la station est conçue pour vendre le carburant. On doit accorder le permis en tenant compte du volume. Et il y a également le ministère de l'Environnement qui doit venir pour dire un mot sur les études d'impact environnemental qui doivent être menées au préalable. Et au-delà de ça, on doit tenir compte de plusieurs aspects, tels que la disposition foncière, c'est-à-dire l'espace. On ne peut pas construire n'importe où.
La proximité avec les habitations. Maintenant, on trouve des stations très collées aux maisons.
Selon les normes internationales, bien sûr, entre stations, on doit retrouver une distance de 500 mètres entre stations. Mais entre station et habitation, 1000 mètres. Et il y a certaines installations qui sont parfois orientées pour qu'on puisse pas ériger lorsqu'une station se retrouve devant ou soit non loin d'une école. Ce n'est pas du tout conseillé, près d'un hôpital, près de quelques installations comme ça. Alors ce n'est pas vrai, près d'un marché. Ce n'est pas également conseillé, mais ce n'est pas le cas chez nous, et on peut bien observer que
ça
les
doit
normes
être isolé des habitations.
Isolé des
moins
habitations.
Moins de 1000 mètres, vous avez dit.
Et les normes disent encore une fois, il faudrait installer une station service à l'entrée de la ville, et tout comme à la sortie de la ville. À l'entrée de la ville, tout comme à la sortie de la ville. Et également, si c'est dans la ville, on doit retrouver la station dans certains coins, dans certaines déviations. Je donne l'exemple d'une station sur Coïdro, Sonaïdroc. Vous voyez, cité Bethel, c'est vraiment un cas de figure où les principes sont vraiment respectés. C'est la plus grande station au niveau de l'Afrique centrale, sans pourtant me faire contredire. Je ne sais pas si vous voyez le coin, c'est Ndoué, boulevard
c'est
Lumumba,
la, au niveau
cité
de la
Bethel,
bifurcation là.
Au niveau de cette bifurcation là. Donc oui, c'est une station où on peut observer et analyser les normes qui ont été respectées. C'est vraiment loin des habitations.
Loin des habitations.
Loin des habitations, il y a des pompes qui sont vraiment aérées, on peut tourner, les voitures peuvent passer. Donc c'est parfois les normes ne sont pas respectées et c'est une forêt qui cacherait beaucoup de choses et nous militons pour que un arrêté ministériel soit interministériel soit réalisé dans ces sens. Nous militons à la longue, là c'est à court terme, à la longue pour que une réglementation spécifique soit également mise en musique pour que cette question des stations de service soit quand même bien présentée.
Mais quelles sont les normes par rapport à la sécurité incendie?
La sécurité incendie, d'abord la station elle est conçue pour résister face aux incendies, c'est-à-dire les ampoules qu'on utilise, l'échafaudage qu'on utilise, on tient compte du produit qu'on doit utiliser. Mmh. Même les lampes, on n'utilise pas n'importe quelle lampe qui pourront dégager assez d'énergie. Ce sont des lampes qui économisent et qui n'auront pas interagir avec les vapeurs qui vont se retrouver tout au long des activités, parce que la station de service décrit une zone à tex, une zone explosive. Alors on doit tenir compte de tout ça, même la tenue de pompiste doit tenir compte de ces aspects-là pour éviter l'électricité statique. Et à côté, on met toujours le bac à sable. Ce n'est pas n'importe quelle tenue qu'un pompiste doit porter. Ce n'est pas aujourd'hui quand j'observe, je vois des pompistes porter des polos comme ça, des polos en coton, alors que c'est pas la tenue appropriée. Manches courtes et elle fait des activités, elle manipule le produit, elle touche n'importe comment. Donc il y a un problème sur le plan sécuritaire. Il y a même des stations qui manquent de bac à sable. Pour autant, ça peut aider lors des incendies.
Lorsqu'il y a le feu, oui.
Il y a à boire et à manger dans cette question de stations-service.
Mais il y a déjà un incident, il y en a plusieurs. Un incident, par exemple, du côté de Brikin, où il y a eu incendie et puis le feu s'est propagé sur toutes les maisons, les habitations qui étaient à côté là.
On en a connu parfois, que ce soit à Kinshasa, dernièrement vers Mongafu là. Malheureusement cela a été maîtrisé rapidement par le service de sécurité, mais voilà pourquoi nous interpellons les autorités à agir. C'est une question d'urgence. Et dernièrement, il y a eu une commission mixte intergouvernementale qui a été mise pour réfléchir autour de ça, mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de suite et nous continuons.
Donc, on peut dire que ces stations se développent de manière incontrôlée.
Il y a un dernier cas qui les démontre, ce qui s'est passé au niveau de Vélodrome. Je ne sais pas si vous avez suivi le ministre de l'Habitat et la ministre des Affaires foncières. Ils sont arrivés au niveau du Vélodrome pour interdire les travaux d'une station-service qui poussait dans un stade Vélodrome. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui,
il y a une station qui poussait là-bas.
Il y a une station qui poussait. On était en train d'ériger une station dans un stade. Et selon les informations livrées par le ministère de l'Urbanisme et Habitat, c'est l'Église catholique qui a donné l'autorisation, qui a fait louer cet espace à l'entreprise Ingène
pour ériger la station
pendant que le ministère n'a pas délivré un permis de bâtir et les travaux sont suspendus. Je pense que les habitants de Kitambo connaissent mieux le dossier. Donc il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de dossiers comme ça où lorsque nous observons avec nos yeux, on peut constater qu'ici les normes ne sont pas respectées. Mmh. Il y a aussi cette question d'inspection. Est-ce qu'on inspecte régulièrement? On peut délivrer le permis. Est-ce que l'inspection, le suivi, le contrôle est vraiment des rigueurs ou bien c'est une activité à qui profiterait cette prolifération anarchique?
Bien, appelez-nous pour participer, dites-nous, témoignez aussi, dites-nous comment ça se passe dans votre quartier. Ingénieur John Kabudi-Budi, quelles sont les autres normes à respecter avant d'ériger une station-service?
Merci, monsieur Jody. J'ai suivi mon frère avec une attention vraiment soutenue parce qu'il a parlé de beaucoup de choses qui sont aussi intéressantes, très importantes. Mais il est à noter que dans notre pays, jusqu'à l'heure actuelle où nous parlons, pendant que nous faisons l'émission, il n'existe pas les services de prévention des incendies en République démocratique du Congo. Les services de prévention d'incendie n'existent pas dans notre pays, jusqu'à présent. Ce qui existe, c'est le service des sapeurs-pompiers. Bien. Donc, on ne peut pas construire une station-service sans au préalable faire la prévention d'incendie dans les systèmes des stations-service. Ça, c'est une obligation. Et on doit d'abord projeter l'ouvrage qui doit être exécuté en prévoyant cela contre les incendies. Et ces services-là n'existent pas. Je pense que ce qu'on est en train de faire parfois, ce sont des tâtonnements pour essayer un peu d'améliorer. En principe, quels sont les risques? Je vous ai dit au départ que le service les stations de service, c'est une opération qui est catégorisée comme étant une opération dangereuse contre l'environnement. Contre l'environnement, contre la santé humaine et contre même les matériels. Parce qu'en cas d'incendie dans une station d'essence, par exemple, c'est l'environnement qui est complètement bousillé, c'est la santé humaine qui est en danger, ce sont les immeubles qui sont aux alentours qui sont endommagés. Voilà la raison pour laquelle cette question doit être prise avec beaucoup plus de considération. En ce qui concerne les normes, parce que vous posez quelles sont les normes à respecter, il est à savoir d'abord que dans notre pays, nous n'avons pas encore les codes qui réglementent les principes d'incendie à ce qui concerne la construction des stations de service. Ça n'existe pas un code ou bien une réglementation écrite qui existe soit dans le ministère de l'Intérieur ou soit d'urbanisation ou autre, qui définit comment est-ce que nous pouvons dimensionner une station de service. Ces normes-là n'existent pas. Or, ces normes-là doivent exister par la proposition du gouvernement ou soit par la proposition du Parlement au travers les billets des experts, les experts qui sont chevronnés dans les domaines de prévention des incendies. Ce sont ces derniers qui doivent se mettre à table pour pouvoir rédiger les normes et les principes. En tenant compte de quoi? Par exemple, ils vont tenir compte, lorsque nous voulons construire une station-service, nous devons savoir où sommes-nous. Nous allons construire la station de service où? Nous sommes à côté des marchés, nous sommes à côté d'une forêt, nous sommes à côté d'une ville. Ça sont des questions qu'il faut se poser. Et nous devons savoir quels sont les dangers qui peuvent arriver en cas d'incendie. Et comment est-ce que nous pouvons élaguer les dangers qui arrivent? Et comment est-ce que nous pouvons contourner même les dangers lorsque les dangers vont arriver? Et que faire s'il y a un problème qui arrive, par exemple, de refus d'autorisation de bâtir? Est-ce que nous pouvons délocaliser la station-service dans un autre endroit ou pas? Ça sont les éléments important et indispensable qui doit se faire en ce qui concerne les études du risque. On doit étudier cela. Est-ce qu'il y a la forêt à côté? Est-ce qu'il y a les bâtiments à côté? Est-ce qu'il y a les marchés à côté? Est-ce que c'est un endroit où peut y avoir les embouteillages? Vous voyez ça? Une fois récolté tous ces éléments qui sont extrêmement importants, à ce moment-là, on va passer à la projection maintenant des préventions d'incendie dans les stations de service. Là, je parle maintenant de dimensionnement. On va commencer à dimensionner. Parce qu'on trouve, par exemple, que c'est nécessaire que nous puissions avoir donc une station de service ici. Mais regardez, par exemple, nous sommes à 10 mètres, il y a des bâtiments. Qu'est-ce que nous devons faire? À ce moment-là, nous devons dimensionner notre station en fonction de ce qui se trouve autour de la station pour éviter les problèmes d'incendie. D'ailleurs, par exemple, on ne peut pas construire une station d'incendie sans pour autant avoir la station d'eau en permanence à côté. Parce qu'en cas d'incendie, l'eau peut intervenir. Donc, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une station d'eau permanente en dehors de la bague du sable dont le frère a parlé, qui est très important parce que la bague du sable ne peut pas manquer là où il y a donc une station service parce que ça peut intervenir, par exemple, en cas de problème d'incendie. Mais il doit y avoir une eau en permanence à côté de cela. Et en plus de cela, là, lorsqu'on construit une station-service, on doit régulariser la circulation. On ne peut pas conduire n'importe comment à la station de service où nous voyons, par exemple, les gens qui viennent s'entasser pour attendre les carburants. Absolument pas. Vous voyez ça? Même les circulations autour doivent être circulations qui doivent, comment dirais-je, avec une fluidité
Oui. Il frigidait ingénieur dans les John, champs, même en cas de pluie, les gens vont se cacher au niveau des stations et chacun avec son téléphone en train de passer des appels ou de recevoir les appels.
Mais ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, la zone où se trouve la station, station service, c'est une zone purement dangereuse. N'importe qui ne peut pas passer là-bas. Et lorsqu'on construit même une station, il doit y avoir les caméras de surveillance. Il doit y avoir les installations techniques. Ils doivent indiquer les chauffeurs comment ils doivent conduire. Même les passants, même les routes, même les véhicules qui passent, qui ne prennent pas l'essence. Si vous passez par là, vous devez donc amadouer votre vitesse. Vous ne devez pas passer en vitesse au risque que vous allez aussi voir cogner. Et toutes ces indications-là doivent être indiquées tout autour de votre station, dans le sens que tout celui qui passe doit savoir qu'il y a un danger devant.
Bien.
Mais, malheureusement,
bien, je vous retrouve tout à l'heure, l'ingénieur John Kabudi-Widi. Nous parlons aujourd'hui de la prolifération des stations-service au niveau des quartiers populaires. Et quelles sont les normes à respecter lorsqu'on érige ces stations? Jeannot nous appelle de Kolwezi, Pat Maimba et Taban de Nouville. Vous avez des questions, des préoccupations, des témoignages, composez les 099-706-9941.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Bien, Jeannot, vous êtes à Kolwezi. Bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la prolifération des stations-service?
Oui, bonjour, encore une fois, merci de nous associer à ces débats. À votre déduction, vous aviez posé la question si ce que vous vivez à Kinshasa, nous le vivons aussi dans d'autres provinces.
Oui.
Je dirais oui. On est dans un même pays, avec le même comportement. C'est-à-dire que la prolifération des stations d'essence, c'est partout. C'est partout. On vient ici de suivre une liste de textes, hein, de normes. Le Congo, nous avons des textes qui sont vraiment très bien, mais le problème, c'est les hommes qui doivent appliquer ces textes-là. Quand on nous explique comme ça, vous sentez que le Congo a vraiment de la valeur. Mais au niveau de l'applicabilité, c'est une autre réalité. Tout le monde est au courant que avoir une station d'essence, d'abord, c'est un danger de mort permanent. Mais tout le monde laisse que cela soit construit en milieu d'habitation. Ici à Kolwezi, oui, à Kolwezi, nous sommes Congolais, nous vivons cela, dans une avenue, vous allez voir, il y a deux, trois stations d'essence. Vous allez voir que dans une même avenue, il n'y a pas le respect de 500 mètres de séparation et de 1000 mètres de séparation d'habitation. Ce n'est pas respecté. Ce n'est pas respecté, cela. Et c'est pour autant que les stations ne sont pas dangereuses. Si elles sont dangereuses, nous le savons. Mais nous attendons, comme je l'ai dit dans mon intervention précédente, pendant le premier sujet, nous attendons qu'il y ait des conséquences, des catastrophes, pour maintenant avoir la conscience que, ah, donc c'était dangereux, nous ne le savions pas. Non, nous le savions, mais on est ignorant des textes, on est ignorant des normes. Comprenez. Nous avons des routes nationales, nous avons des routes de contournement, broussailleuses d'un côté à l'autre. Pourquoi ne pas mettre ces stations le long de ces routes-là? Parlons par exemple de Kolwezi, Likasi, Lubumbashi. C'est broussaillé de partout. Mmh. Mettez des stations là-bas. Comme c'est une marchandise indispensable pour tous ceux qui sont usagers de la route, nous allons aller suivre là.
Il y a combien de stations-service sur ce tronçon-là, entre Kolwezi et Likasi?
Ah, est-ce qu'il y a, il y a des stations? Bon, il faudrait vérifier, hein.
Il faut vérifier. Ouais.
Mais les stations, nous le voyons plus en milieu d'habitation que sur des routes de voyage comme ça. Pourquoi? L'État, quand on dit l'État, on se cache toujours derrière l'État qui est une personne morale. Mais nous qui dirigeons l'État, nous qui faisons l'État, nous ignorons cela. Je pense que le mieux serait de rentrer dans les textes et de faire vivre ces textes-là en respectant. Nous avons des espaces vides partout. Mettons-y des stations d'essence pour ne pas qu'on vive des scandales. Pourquoi on attend qu'il y ait des piles qui arrivent pour qu'on puisse mettre, sursauter et crier au scandale? Mmh. Avant que les prix n'arrivent. Ici, nous voyons des stations, comme je l'ai dit. Il y a des stations. Il y a dans un quartier chaud qu'on appelle Cité Manica, voilà. Il y a des stations. Vous voyez, derrière une station, il y a un hôtel. À côté d'une station, il y a des habitations. Ce sont des quartiers chauds, comme on dit, où il y a plusieurs gens qui vivent dans un même entassé là-bas. ignorant toutes les conséquences. Quand il pleut, oui, tout le monde s'accourt vers pour s'abriter au niveau de la dalle de la station, ignorant toutes les conséquences si qu'il y a par exemple du feu, ça sera vraiment filmé de partout. Nous ignorons ça, nous attendons qu'il y ait les conséquences, qu'il y ait la catastrophe pour que nous puissions vraiment sursauter. Je pense que le mieux à faire, c'est de rentrer dans les textes et de respecter les textes. Les textes, c'est respecter les normes. Entre deux stations, 500 mètres.
500 mètres.
Entre la station et les habitations, 1000 mètres.
Merci.
Et cela n'est pas respecté.
Merci.
Ça ne va pas avec nous.
Merci, Jeannot. Patty Mayimba, vous êtes à Bandundouville. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour, cher Jody Daniel. C'est Patty depuis Bandundouville. Hein. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre question, Patty? Quelle est votre question?
Cher Jody, moi, je voulais un peu que les invités nous disent où est-ce qu'il faut vendre du carburant. Est-ce que vous parlez des stations-service? Je ne sais pas si c'est nous qu'on a ici. Ça entre aussi dans la ligne de compte de ce qu'on appelle station-service.
Qu'est-ce que vous avez là-bas à Bandundouville?
Si je peux voir là.
Oui. Dites-nous concrètement.
Bon, on a des histoires assimilées à des stations-service parce que je vois il y a des fois les gens qu'on appelle communément les Kadhafi,
oui.
Ils vendent du carburant sur des tablettes comme si c'était des poissons grillés. Bon, vous voyez tout autour là, il y a des jeunes filles qui sont en train de vendre leur maïs, ils sont en train de rôtir le maïs. Quelque part là, on vend les carburants. Oui. On ne sait pas où est-ce qu'on peut vendre du carburant. Tout au préambule là, j'ai entendu l'invité dire à Kinshasa là, voyant la prolifération des engins, il faut qu'il y ait quand même des stations là où on vend du carburant pour ne pas pénaliser les chauffeurs. Mm-hmm. Mais moi, je trouve que l'État pouvait déjà anticiper cela. Hein, quand nous voyons que il y a des engins, nous ici, il y a des moteurs, bien sûr. Mais là où on vend des carburants, moi, je trouve que l'État pouvait un peu ouvrir l'œil. Parce que vous vous souviendrez avec moi, il n'y a pas longtemps, sur la grande avenue, c'est Wamba, il y avait eu l'incendie. Vous voyez? Donc, là où les gens habitent, il y avait tout un dépôt de carburant, on vendait du carburant là. Tout aux alentours là, on était en train de griller les cacahuètes. Il y a eu l'inflation, mais c'était terrible. Vous voyez, dans des choses comme ça, vous voyez que l'État cherche maintenant à sortir comme s'il est surpris. Alors que l'État est censé anticiper. Donc, moi, j'aimerais un peu que les invités nous disent où est-ce qu'on peut vendre du carburant. Est-ce que le carburant peut être vendu comme si c'était.
Comme des poissons grillés.
Comme si c'était. Voilà, comme des poissons grillés dans ce sens-là. Qu'ils nous disent un peu. C'est Patty depuis Bandundouville. Je vous remercie.
Merci, Patty. Maître Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la prolifération des stations-service?
Merci, Monsieur Jody, de vous inviter. Moi, je pense que lorsque l'invité dit que la seule station, c'est celle de la première rue, ça m'étonne, ça me dérange dans un pays aussi serré que le nôtre.
Je n'ai pas dit la
alors,
seule,
moi, je pense que c'est
une station qui figure, c'est une station qui respecterait les normes.
Oui, oui.
Voilà, il dit c'est parmi l'une des stations qui respecte les normes environnementales. Voilà, de l'environnement, c'est bien situé, tout ça, c'est loin des habitations.
Non, je suis d'accord avec lui. Voilà pourquoi je me suis étonné. Et j'ai dit que la première cause de cette prolifération dangereuse, c'est l'État congolais. Si vous lisez la loi sur les mines et la loi sur les hydrocarbures, il y a ce qu'on appelle la commission d'études et de faisabilité. Avant d'exploiter les mines ou avant d'exploiter dans le domaine du carburant ou d'ouvrir une station d'essence comme on l'appelle, il faut demander l'agrément auprès du ministère. Ça va même jusqu'à 5 000, 10 000 comme ça. Ensuite, on envoie une commission d'études et de faisabilité remplie d'experts urbanistiques, environnementaux et autres. Ce n'est qu'après leur rapport qu'on vous permet d'ouvrir une station d'essence. Alors, si l'invité déplore le fait que beaucoup de stations n'ont pas de normes respectées, je me demande, nous sommes dans quel état? Car l'état n'a de sens que si la loi est respectée. Cette commission fait quoi? Apparemment, on vend des agréments. Donc, la première cause revient à l'État qui est irresponsable. Comment on peut ouvrir des stations près des habitations? Alors que la commission existe, la loi oblige. On dit même qu'il faut observer pendant 4 mois avant qu'on permette d'exploiter. Donc il y a un problème sérieux, monsieur Jody. Où allons-nous dans ces pays? Deuxième chose, il y a l'absence d'une réglementation propre par rapport aux incendies. Jusqu'à ce jour, parce que le code pénal a été promulgué ou mis en place en 1940. jusqu'à ce jour, il n'y a pas une modification qui ajoute un article qui, par exemple, interdit de téléphoner dans une station. Ça n'existait pas. En droit, on appelle ça de manière générale les infractions de mise en danger. Et lorsque vous le faites, on peut vous arrêter parce que vous avez une insouciance sociale. Mais de manière expresse, une loi qui dit téléphoner près des acteurs est une infraction, ça n'existait pas. Donc l'irresponsabilité étatique et l'absence d'une réglementation propre qui punit de manière expresse tel comportement ferait œuvre utile. Voilà, à mon avis, M. Jody, ce qui doit être fait. Ça fait très mal. Le temps n'a de sens que si les règles qui sont mises en place sont respectées. C'est un problème social très important. Moi, j'ai vécu à Kaouka, près des Yolo Médical. Mmh. On a assisté vers les années 2000, près de l'hôpital, un incendie terrible. Les maisons étaient décimées, les vieux étaient brûlés. C'était par rapport à tout cela. Mais la station existait toujours.
Tout était parti de la station. L'incendie s'était déclaré au niveau de la station.
De la station, les maisons derrière ont été calcinées, des vies ont été détruites. Mais actuellement, où je vous parle, dans le même lieu, si j'ai fait un tour, avant l'école émergence, il y a une station, près d'une école. Et tout derrière, il y a des habitations. Vous allez un peu sur la place Capelle, là. Il y a 4 stations. L'autre là-bas, près des habitations. Près, l'autre là, vous venez, près de... Donc, on me demande, nous sommes où?
Et Maître Omar, on dit souvent que le feu, l'incendie des produits pétroliers est difficilement maîtrisable.
C'est la première fois que j'ai vu l'eau, le feu traverser comme un être humain. Le feu passer comme ça, c'était la première fois. Ça a pris les tôles comme ça. Donc, c'est un problème des sociétés très important et que l'État doit s'élever. On ne doit pas se limiter à donner des agréments aux gens. Les gens ouvrent des stations partout et sans études de faisabilité au préalable. Donc j'encourage les combats que mène l'invité. Il y a une autre cause, mais c'est jeudi. C'est nous-mêmes, la population, qui sommes naïfs, si je peux dire ainsi. Dans un pays, lorsqu'on ne sait pas dénoncer un mal, c'est qu'on l'adore. Le gouvernement ne fera pas de tout partout. La vie de Kinshasa est très vaste. Pourquoi nous-mêmes, population, ne dénonçons pas? On est dans un pays où un Libanais peut venir, il met une station d'essence, personne ne dénonce. Il faut que l'État prenne ses responsabilités en amont. Avant d'ouvrir, voir les conditions. Il faut qu'on sanctionne ceux qui ne respectent pas. Mais aussi nous, population, puisqu'il s'agit de notre santé,
on doit dénoncer.
Essence près de nous, dénonçons.
Bien, merci Maître Omar. Merci bien, Monsieur Pepito Sakasaka. Votre réaction.
Je suis très content du fait que les auditeurs ont manifesté un intérêt à ces sujets, parce que c'est un sujet qui nous préoccupe. Je préfère faire un état des lieux sur ce qu'il y a. Mmh. On a combien de nombre de stations-service? La courbe est ascendante. Nous avons 604 stations-service aujourd'hui. C'est une étude qui date de 2024, au mois de février. Mmh. 604, mais...
Dans les 24 communes.
La RDC, sur l'étendue de la République. D'accord. Nous avons 604 stations-service et qui fonctionnent. 91% fonctionnent, c'est-à-dire le 551 stations est fonctionnelle, ce qui indique une infrastructure de distribution de carburant. Cependant, 5% sont en construction, ce qui suggère une croissance et une expansion continue du réseau, et 4% ne fonctionnent plus. Il y a deux stations qui arrivent à fermer après les temps, mais la courbe est ascendante. Alors face à cette situation, qui sont les propriétaires des stations-service? Parmi les 551 stations-service qui sont fonctionnelles, 27% appartiennent à des majors. Ce sont des compagnies qui ont beaucoup d'argent, de multinationales, telles que Total, Engen, Cobil, et ils ont la nature de respecter quand même les normes, parce qu'ils ont assez d'argent et ils savent comment implanter, faire des études au préalable. Contre 73% indépendantes. Ils sont congolais ou africains qui investissent dans ça.
Des hommes d'affaires, voilà.
Et généralement, ce sont les stations-service indépendantes
qui posent problème.
Alors l'État devrait vraiment s'impliquer pour essayer un peu de faire respecter
la loi. Mais l'agrément, vous avez suivi Maître Omar à parler, il faut un agrément avant d'installer une station.
Ce qui est vrai, les documents sont donnés, ça commence d'abord au ministère de l'Urbanisme et Habitat, c'est-à-dire un permis de bâtir, Il y a également...
Par la corruption, on donne l'argent et puis on vous établit un document.
Bon, nous connaissons comment les choses se passent, mais dans la norme, il faut aller au ministère d'Urbanisme et Habitat, il faut faire des études d'impact environnemental, c'est-à-dire passer par l'agence congolaise de l'environnement, et tout ça sera validé. Il faut partir au ministère des Hydrocarbures pour avoir un permis d'importation, commercialisation de produits pétroliers, en tenant compte de son volume et tout ça. Mais nous
tout
constatons...
Tout ça, on ferme les yeux sur tout ça.
Bon, ce qui est vrai, au-delà de ça, on va délivrer le permis, la station fonctionne, mais il faudra aussi une inspection.
À côté des habitations, tout ça c'est dans un quartier populaire, tout ça on ne voit pas.
Bon, nous décrions parce que le constat est amer, et voilà pourquoi nous voulons que les autorités puissent agir. Il y a eu une commission mixte, mais jusqu'aujourd'hui, la suite s'est fait attendre. Mais j'ai voulu aussi aborder la question de la population. Moi, je rends hommage à la population qui s'élève aujourd'hui. Nous ne sommes pas si naïfs comme hier. Nous avons vu ce qui s'est passé à Kitambo. Ce sont des jeunes sportifs qui se sont levés pour faire des vidéos et l'autorité...
Pour dénoncer
la chose. Mmh. Dernièrement, je crois que c'était l'année passée ou en 2022, à Brikine, on voulait ériger une station de service. La population s'est levée. Et vers Tchobo, Matete, à cet endroit-là, il y a le terrain. On voulait ériger, on était déjà en train de construire une station.
La population
s'est levée. Mmh. Nous ne sommes pas si naïfs comme on peut le croire. Donc nous invitons la population à dénoncer, à nous écrire. D'autres nous écrivent aussi parce qu'il y a à boire et à manger dans cette question de stations-service. Il y a des stations-service qui ne vendent que de produits contrefaits. Il y a des stations-service qui marchent en toute illégalité. Si vous cherchez les gérants, vous n'allez jamais le trouver. Mmh. Il y a des stations-service qui ramassent le travailleur sans pourtant les former. Il y a à boire et à manger dans cette question. Et nous souhaitons qu'une réglementation à long terme, une réglementation spécifique soit réalisée. Et puis à court terme, un arrêté interministériel est vraiment attendu qui pourra soulager tant soit peu cette question d'installation de stations-service sur l'étendue de la République.
Alors si on arrive à retrouver une station à moins de 500 mètres d'une autre station ou à proximité des maisons d'habitation, est-ce que la question qu'on se pose est de savoir si les services de l'État sont passés par là ou pas?
Quelqu'un m'a demandé hier qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ces cas de figure où la plupart des stations marcheraient sur les normes. Je lui ai dit la force revient à l'État. Nous avons tous porté les cachinets dernièrement. Parce qu'il y avait Covid-19, on a fait des communiqués, nous étions obligés pour des questions sanitaires de porter le cache-nez. Je pense que si l'État prenait ses responsabilités, l'État peut frapper dur.
On peut fermer les stations qui sont mal situées.
Nous avons vu à l'époque du ministre Mende, si je me trompe, il y a eu des stations-service sur Limété. Et on devrait élargir le boulevard.
Vers 7e rue, je pense.
Vers 7e rue, vers 12e, je crois, 12e rue. On était obligé de supprimer ces stations-service-là. La force revient à l'État et nous restons positifs. Le Cameroun a un arsenal juridique dans ces sens qui fixe les conditions pour ériger une station-service. Le Madagascar également a une réglementation en cette matière. Nous pouvons imiter ces pays et pour essayer un peu de répondre autant soit peu. Sinon, nous risquerons de connaître.
Mais on doit avoir aussi une réglementation. Nous
militons pour ça. J'en ai parlé plusieurs fois. Nous militons pour une réglementation à long terme, mais à court terme, il faudrait un arrêté interministériel qui doit aborder à fond cette question avec beaucoup plus de détails. Imaginez, on doit construire une station de service, mais on doit respecter également la nappe phréatique pour éviter la pollution.
La pollution du sol.
On doit respecter
les eaux, tout ça.
On doit respecter l'air. Parce que, selon une étude, la ville de Kinshasa est classée parmi des villes très polluées en Afrique. Et les stations de service également participent à la pollution de l'air. Bien. Donc nous devons prendre ça au sérieux et pour répondre pour préserver de vie et favoriser aussi les affaires, parce qu'on a besoin de ces hommes d'affaires-là, mais en respectant les normes.
Bien, Elvis Kaoa, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour aux invités.
Quelle est votre question, Elvis?
Je voulais poser la question, d'abord, premièrement, je voulais d'abord parler sur la distance, ce qui concerne la distance entre les stations, si peut-être, et aussi... Si peut-être vous regardez, peut-être comme il a parlé du terrain Tchombo, ce sont les jeunes qui se sont levés. Si vous regardez ici à Madi, parce que si vous parlez de la distance, c'est un peu compliqué. Si nous avons 4 stations, ou si vous arrivez des stations Kwengi, arrivez aux stations Tomba, les stations Tomba, à la station qui est après Wengi, après Marseille Tomba, et aussi la station est totale. Vous allez voir que parmi ces stations, moins de 100 mètres, non, moins de 150 mètres entre les stations. Je pense qu'il y a peut-être, ce qu'il est en train de parler, peut-être qu'il faut vraiment un peu de la rigueur. Parce que nous avons vu peut-être hier, j'avais vu une vidéo qui circulait hier sur le réseau, sur une station qui s'est exposée là, qui n'a ça. Il y a des dégâts, il y a des problèmes. Mais si vous arrivez sur ma tête, vous allez voir, c'est bien pour le commerce, c'est bien aussi parce que ça nous aide. Parce que là, il y a assez de circulation, il y a assez de mouvement. Nous, les gens qui travaillent là, ça sort quand même. Mais sur la distance entre les stations, si vous arrivez du côté marché Matete, vous allez trouver 4 stations, ils sont moins de 150 mètres entre les stations. Alors, quelles sont les conséquences que les populations sont en train d'encourir, même si on doit protéger les hommes d'enfer, tous ces gens. La vidéo avait parlé sur les stations totales. Au moins, ces gens-là respectent un peu la distance. Parce qu'avec les stations, il n'y a pas assez de gens. Il n'y a pas assez de mouvements aux alentours. Et ils empêchent aussi les gens de s'arrêter. Même s'il y a pluie, vous ne pouvez pas vous tenir là-bas. Au moins, j'ai vu ça. Mais avec les autres stations, quand il y a une pluie, tout le monde est là. Il y a même des policiers qui sont là. Ils disent les fumées, tout ça. Ils disent, mais ils connaissent que c'est contre. Même dans l'air, ils disent les choses qui sont défavorables à la station. Mais ce sont les mêmes gens qui travaillent là, ce sont eux mêmes qui sont en train de l'utiliser. Et Dédé, il parle aussi des gérants. Oui, ça c'est parce qu'il y a un gérant qui n'a pas de la notion. Il est seulement là pour comptabiliser l'argent, pour verser de l'argent, pour faire ça. Alors pour faire la suivi, peut-être c'est lui qui peut travailler à la station. Il doit avoir quelle capacité, quel genre de policiers qui peuvent être détachés à la station. Est-ce qu'il y a des policiers qui filment? Parce qu'il veut trouver qu'un policier qui filme et travaille à la station, il filme aussi à la station. Alors comment il va arrêter une personne qui a été dépassée qui filme à la station alors que lui-même est en train de filmer?
Merci voilà beaucoup. Ça, je voulais parler. Merci. D'accord. Merci Elvis Kaoa depuis Kinshasa. Mais ingénieur John Kabudibudi, à vous la parole.
Merci, monsieur Jordi. Je vois comme si le débat, vous êtes en train de l'orienter autrement. J'ai entendu mon frère sur plateau qui dit qu'il y a une station qui est construite selon les normes, parce que c'est 500 mètres, 1000 mètres entre la station et les paysans ou bien les habitations. Donc, c'est-à-dire que quand une station est à 500 mètres de l'autre, c'est-à-dire que non, cette station répond aux normes. Absolument pas. La station peut être à 1000 mètres, à 2000 mètres, sans pour autant respecter les normes. Je vous ai dit, la station service, c'est un travail très dangereux contre l'environnement et contre la santé et contre beaucoup de choses. Et par conséquent, ce service doit être dimensionné par les projecteurs en prévention d'incendie. Notre ami parle des réglementations. Vous demandez qu'il y ait des réglementations. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de réglementation à ce qui concerne les stations de service. Il n'y en a pas dans notre pays. Les normes, il n'y en a pas dans notre pays. À titre d'exemple, je peux vous poser la question. Allez à Lemba, par exemple. Allez à Lemba, allez à Matete. Toutes les stations qui sont construites là-bas. Où est-ce qu'on a construit une caserne de sapeurs-pompiers dans notre pays? Une caserne de sapeurs-pompiers, dans les cas où il y a les risques, les sapeurs-pompiers peuvent intervenir. Il n'y en a pas. Alors, tout ce qu'on est en train d'octroyer au ministère d'Environnement, autorisation de bâtir, ce sont les histoires, les papiers, seulement pour donner les gens la permission de pouvoir construire. Ça ne répond pas aux principes et aux réglementations par rapport à des stations service. Absolument pas. Parce que cette main d'œuvre-là n'est pas dans notre pays. En République démocratique du Congo, jusqu'à l'heure actuelle, nous n'avons pas la discipline de prévention des incendies. Ça n'existe pas. Nous n'avons pas les études liées par rapport à la prévention des incendies. Ça n'existe pas dans notre pays. La petite discipline que nous avons, c'est la discipline d'intervention en cas d'incendie. Mais pour prévenir l'incendie, cette discipline-là n'existe pas. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on construit une station-service, on doit d'abord projeter, on doit dimensionner la station dans le sens que la station répond à des conditions appropriées en cas d'incendie. Et c'est cette main d'œuvre-là qui manque dans notre pays. Et si aujourd'hui on demande des réglementations, qui sont ceux-là qui vont faire ces réglementations-là? Pour avoir les réglementations, on doit avoir les experts dans la matière qui doivent réfléchir dans les domaines, dans le sens que l'État congolais puisse réglementer cela de façon que cela soit opposable à tout le monde.
Mais ingénieur Kabudibudi, on a suivi savons que nous sommes dans un pays où la corruption l'emporte sur les normes, etc. Alors dans ces contextes-là, qu'est-ce qu'il faut faire?
D'abord, en dehors des corruptions et consorts, ils sont en train de naviguer dans le vide. Ils naviguent dans le vide. Ce sont des tâtonnements. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire est que l'État congolais, le gouvernement congolais, doit montrer sa volonté de pouvoir bien faire. Le gouvernement montre la volonté de pouvoir bien faire, il cherche la main-d'œuvre. La main-d'œuvre peut être étrangère, la main-d'œuvre peut être locale, mais locale, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas les disciplines. On peut demander à des experts, les gens qui sont compétents dans les domaines de prévention des incendies, de venir nous aider. D'aider le Congo de façon que nous puissions avoir les réglementations dans ces domaines de prévention des incendies. Que ce soit pour les stations-service, que ce soit pour les bâtiments, que ce soit pour tout ce qui se passe dans notre pays dans les domaines de prévention des incendies. Il y a un interlocuteur, celui qui a intervenu, qui dit « Où est-ce que nous pouvons vendre les carburants ?» C'était une bonne question qui n'est pas encore répondue. Pour vous prouver que dans notre pays, il n'y a pas les normes à ce qui concerne les stations-service, on vend même les carburants dans des maisons. Oh, absolument pas. Ça ne peut pas se faire. Les carburants doivent se vendre dans les stations-service. Ce n'est pas quelqu'un avec les tonneaux dans sa maison, avec les tonneaux dans un dépôt, en train de vendre. Ça ne peut pas se faire. Dans un pays qui se respecte, là où il y a les normes, là où il y a les réglementations, sachant les conséquences qui peuvent arriver en cas d'incendie. Ça ne se fait pas. C'est ce qui prouve que tout ce que nous sommes en train de faire dans notre pays, ce sont des tâtonnements. Et j'ajoute encore...
Ingénieur John, peut dire que même les Kadhafi qui vendent les produits pétroliers, là, ne devaient pas les vendre de cette façon-là.
Ils ne devaient pas le faire. Ils n'ont pas le droit de le faire. Il ne peut pas vendre les produits pétroliers, l'essence, et il amène les tonneaux d'essence dans... Non. Ça ne peut pas se faire. En cas d'incendie, vous voyez ce que ça peut être comme dommage.
Oui.
Ça ne peut pas se faire. C'est la station service qui est habilitée de faire les services-là. Ce n'est pas les particuliers avec les Gaddafi dans des mains. Non, ça ne peut pas se faire.
Oui, même au niveau des stations, on voit les gens venir acheter les produits pétroliers avec des bidons. Est-ce que c'est autorisé?
Voilà. Il y a les produits pétroliers qu'on peut acheter dans les bidons, au maximum 5 litres. Et le bidon-là doit être étiqueté. Et tout ceci, c'est dans les réglementations, c'est dans les normes, c'est dans les principes. Mais est-ce que nous avons les lois qui régissent les produits inflammables? Est-ce que nous avons les lois qui régissent les produits explosifs? Est-ce qu'il y en a dans notre pays? C'est là où il faut se poser des questions. Regardez dans les stations d'essence comment les Wewa et les taximènes s'entassent en masse, mais en cas d'incendie. Or, dans notre constitution, il est écrit que l'État congolais doit protéger les Congolais avec leurs biens.
C'est là où oui, mais aujourd'hui, les stations-service sont devenues les arrêts des taxibus, des 107 et des Wewa.
Ouais, mais c'est ça une jungle dont je suis en train de déplorer ici. Donc, il serait important, il n'est pas trop tard. On peut chercher donc les experts ailleurs, les gens qui sont chevronnés dans les domaines. Ce n'est pas le ministère d'urbanisme où il y a parfois quelqu'un qui a étudié à l'IBTP, un géomètre, un ingénieur en BTP, tout ça, ainsi de suite. Et vous dites que non, il va donner donc les arrêtés pour aller construire une station d'essence sans pour autant faire les études de prévention des incendies. On est où là?
Bien.
Dans un pays où il n'y a pas de casernes de sapeurs-pompiers. Il n'y a pas de casernes de sapeurs-pompiers dans notre pays. Même pas de véhicules de sapeurs-pompiers.
Donc, cela veut dire que s'il y a un incendie ou une explosion au niveau d'une station, on ne pourra pas gérer cela.
C'est fini. On est bousillé. C'est fini. On est bousillé.
Merci, ingénieur John Kabudibudi. Merci, excellente journée et à la prochaine. On va conclure avec Monsieur Pepito Sakasaka, énergéticien. Alors, qu'est-ce qu'on retient, la prolifération des stations, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire pour remettre les choses dans l'ordre?
Je comprends le ras-le-bol de Monsieur Kabudibudi. Ça fait très mal lorsqu'on a la science et que on regarde ce qui se passe autour de nous. Mm. Ça révolte et nous autres là, pour exprimer notre révolte, c'est au travers des moments pareils. Et je vous remercie également. Bon, il y a eu une question très importante où on doit acheter ou où on doit vendre le carburant. C'est dans une station-service. Mm. Et ce que nous voyons, je l'ai toujours baptisé étacar, étalage des ventes de carburant. Et ta car. C'est une expression de la pauvreté spirituelle ou mentale.
Mmh. C'est-à-dire, on vend le carburant comme des poissons grillés.
La pauvreté peut nous pousser à inventer des mécanismes. Et cela, cette pratique s'inscrit dans une logique d'un civisme économique. Donc quelqu'un cherche comment s'auto-prendre en charge et il commence à manipuler n'importe quoi. Au point même de tordre les normes ou bien le principe, et voilà. Donc ça doit, c'est une matière à réflexion, mais aujourd'hui c'est une main-d'œuvre importante. Aujourd'hui ce commerçant là en bilan qui achemine le produit jusque dans des endroits où il n'y a même pas de station-service, ces commerçants là alors moi j'ai toujours souhaité que l'État puisse les encadrer. Il y a toujours moyen pour qu'ils quittent cette manière de faire d'une manière incontrôlée, pour qu'ils améliorent et qu'ils deviennent des entrepreneurs puissants.
Vers les Kitambo, vous verrez les femmes des militaires et les filles des militaires qui vendent les produits.
C'est une situation, peut-être nous aurons le temps d'en parler. C'est une pratique qui fait couler beaucoup d'argent à l'État congolais. Parfois, c'est via ces genres de commerçants que le produit traverse certaines frontières illicites. Pour arriver, nous parlons de la contrebande, parfois c'est au travers de ce genre de trucs, mais c'est également une activité qui fait en sorte que beaucoup de gens nourrissent leur famille.
Alors, ingénieur, monsieur Pepito, on peut retenir que l'État peut fermer les stations qui ne répondent pas aux normes.
Avant d'arriver là, il y a les normes administratives à mettre en place, et puis il y a des normes également techniques qu'il faudrait mettre en place pour construire une station-service. L'État, la force revient à l'État. Si après les études, après des commissions mixtes, après des évaluations, on se rend compte que telle station-service ne respecterait pas les normes, il y a moyen de le frapper. Mais il y a encore un vide juridique jusque-là qui pousserait ces genres de commerçants à faire tout ce qu'ils veulent. C'est une question à prendre dans sa globalité. C'est une question à prendre avec beaucoup plus de dextérité.
Pourquoi ne pas intéresser aussi les honorables députés pour chercher à légiférer là-dessus?
Intéressant. C'est un vide qu'il faudrait répondre maintenant. Et je ne cesserai de remercier tous les Congolais qui s'intéressent à cette question et tous les étudiants qui font aujourd'hui les sciences, qui abordent des questions des hydrocarbures, le pétrole et tout. C'est intéressant pour développer une main-d'œuvre dans ce sens.
Merci Monsieur Pepito Sakasaka, énergéticien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est par ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.